Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci à la librairie Mola d'organiser cette rencontre avec Jean-Luc Aubarbier, que nous avons le plaisir d'accueillir parmi nous ce soir pour son dernier roman, le thriller La vengeance de Gaïa. Alors, qui est Jean-Luc Aubarbier? Eh bien, ici à Bordeaux et en Aquitaine, on le connaît bien. En Dordogne, on le connaît mieux encore, mais je pense que sa réputation a largement dépassé les frontières de la région et même les frontières nationales, puisqu'il participe à des foires littéraires et à des festivals comme celui de Brive et d'autres encore. Il est également régulièrement à Paris pour d'autres activités moins romanesques et plus maçonniques, dira-t-on. Et donc, il est né à Sarlat. Et il est aussi libraire à Sarlat, une librairie donc indépendante et qui est tenue depuis des décennies maintenant.
34 ans
au service des livres et des amateurs de livres. Alors c'est justement pour les amateurs de livres et pour les lecteurs que Jean-Luc Aubarbier écrit maintenant des romans, des thrillers qui ont beaucoup de succès parce qu'ils répondent à une attente du lecteur et ils entretiennent aussi l'attente du lecteur. Alors dans celui-ci, La vengeance de Gaïa, pour amorcer la curiosité de ceux qui ne l'auraient pas encore lu et que bien sûr on invitera à lire, ainsi que ses autres ouvrages, parce que sa bibliographie est maintenant très copieuse. J'ai compté plus de 60 ouvrages, pas tous des romans, mais si on ajoute les essais et même les préfaces, vous avez fait aussi des préfaces à d'autres ouvrages, il y a plus de 60 titres dans votre bibliographie, donc c'est quand même un monument désormais que Jean-Luc Aubarbier. Et donc, dans La vengeance de Gaïa, il est question de Gaïa. Alors, Gaïa, c'est la Terre, c'est la déesse de la Terre. Et cette déesse de la Terre, elle n'est pas contente. D'ailleurs, on le voit aujourd'hui aussi, de nos jours, le réchauffement climatique, le dérèglement climatique. Tout ça fait réagir des écologistes un peu intégristes.
Il y a de l'intégrisme partout, c'est ce que j'essaie de traiter dans pratiquement tous mes romans. Le précédent, c'était par rapport à l'intégrisme islamique,
le nazisme.
Je travaille toujours sur les dérives, en définitive, comment on tombe du mauvais côté, je dirais, du côté obscur de la force, comme on dit dans La guerre des étoiles.
Quelquefois pour des bonnes causes, mais qui sont complètement dénaturées.
Absolument.
Et donc, c'est le cas aussi avec ce fil conducteur. C'est l'un des fils du roman, donc l'écologie. Mais l'intérêt assez extraordinaire de ce roman, c'est qu'on a un chassé-croisé temporel très très grand, puisqu'on fait sans arrêt le va-et-vient entre 2002, donc notre époque en gros, et 10 000 avant le présent, ou 11 000 même.
11 000 exactement.
11 000 très exactement, ce qui correspond évidemment à la préhistoire, mais à une période particulière de la préhistoire, c'est la fin des Cro-Magnons.
Voilà ce qui s'est passé. Il y a 11 000 ans, souvent les gens l'ignorent, il y a 11 000 ans, il y a eu un énorme réchauffement climatique qui a provoqué la fonte des glaciers et des pôles, et la mer est montée de 100 mètres verticales. C'est-à-dire la mer était à 50 km à peu près au large d'Arcachon. L'Arcachon était un petit endroit... Petit lac d'eau douce, on va dire, à cette époque-là. Et il y a une fonte des glaces assez rapide, en quelques siècles, on va dire, que la mer est montée, qui a complètement détruit cette très, très vieille civilisation des peintres, puisque la civilisation des Cro-Magnons, elle a duré, grosso modo, de moins 35 000 à moins 10 000, à peu de choses près, avec à peu près les mêmes thèmes que vous avez à Chauvet. Chauvet, c'est il y a 35 000 ans. Lascaux, c'est il y a 20 000 ans. Vous avez des grottes qui sont à 11 000 ans, 10 000. Et vous trouvez les mêmes thèmes. Ça veut dire qu'il y a une même civilisation de l'Oural à l'Atlantique, et qui a duré 25 000 ans, ce qui est bien plus long que toutes les autres civilisations qu'on a connues. Et vu la qualité en même temps artistique que l'on a, on dit que c'est une vraie civilisation. Personne ne peint naturellement. Je veux dire, il fallait des écoles, il fallait des gens qui travaillent. On imagine une société beaucoup plus riche que ce que l'on pense, cette société préhistorique. Et elle va disparaître brutalement, parce que le réchauffement climatique va noyer toutes les côtes où il y a beaucoup d'habitants. Hein. La grotte Cosquer qui se trouve à Marseille, aujourd'hui, dans l'entrée de la grotte Cosquer, est à 60 mètres sous l'eau, alors qu'elle était à l'air libre, bien sûr, il y a 11 000 ans. Et en même temps, ça va provoquer la poussée des forêts. Il n'y avait pas de forêt à la préhistoire, c'était une espèce de steppe. On était dans une zone un petit peu sibérienne, en fait. Et les forêts vont pousser. Et les animaux qui étaient la base de l'alimentation, qui était le renne va partir vers la Scandinavie, vers la Sibérie. Les mammouths aussi, on sait qu'ils vont disparaître. Et une partie de la population va partir avec derrière les bêtes, d'autres vont rester. Par contre, la qualité artistique que l'on connaissait va disparaître brutalement, il n'y en a plus. Alors moi, j'ai essayé d'imaginer ça s'est mis en place, comment cette société se disloque, comment elle va essayer de retomber sur ses pattes, comment elle va se reconstruire et sur quelle base. Ça, c'est la partie ancienne. Tous les deux chapitres, on change d'époque. Tantôt on est de nos jours, tantôt on est dans le passé. Et donc j'ai essayé d'imaginer effectivement comment cette société va essayer de se reconstruire. Et voilà, je suis parti de l'idée, qui paraît vraisemblable d'ailleurs aux préhistoriens, que le mythe du déluge, qui est universel, que vous trouvez partout en Chine, chez les Sioux, comme dans les sociétés de la Méditerranée, vient probablement de ce réchauffement climatique qui a provoqué des dégâts considérables. Voilà. Ça, c'est toute la partie ancienne qui est partie autour de ça.
Alors, dès le début, on plonge dans la spéléo et on s'identifie aux deux personnages qui, justement, visitent ou découvrent, ils sont les premiers depuis des millénaires à pénétrer dans un étroit boyau et à avoir le courage que tout le monde n'a pas d'explorer le monde souterrain. Et donc, ça, c'est dès le premier chapitre. Hein. Je vais juste lire un court extrait
de
ce moment de spéléo vécu. Par procuration. C'est moi la plus petite, je passe devant, lança Marjolaine. Il ne leur fallut que 10 interminables minutes pour franchir la zone inondée. Ils respiraient par petits coups, haletant à chaque pas. Marjolaine nageait à moitié, soutenue par Thierry. Ils sentaient leur cœur battre à tout rompre, à la limite de l'asphyxie et de l'évanouissement, toussant, crachant une eau froide qui semblait stagner là depuis la nuit des temps. « Plus jamais tu ne me feras faire ça !» lança Pierre à son ami, tandis qu'ils émergeaient à pied sec. « Le terrain remonte franchement, constata Marjolaine, toujours dans la bonne direction. Ils avançaient sur un sol régulier, tout leur paraissait confortable après la désagréable épreuve du tunnel. Un porche naturel, large et haut de 2 mètres, s'ouvrait devant eux. Ils pénétrèrent dans une petite grotte, presque circulaire, et poussèrent ensemble un même cri. Une ronde d'animaux peints se mit à danser devant leurs yeux. » Donc voilà.
Ça, c'est le début.
C'est difficile à commenter parce qu'on assiste vraiment en direct à l'émerveillement de deux archéologues préhistoriens qui découvrent justement une fresque.
Voilà, ils vont découvrir ils découvrent une grotte à côté de Lascaux. Alors, il y a une tradition qui dit qu'il y a une deuxième grotte ornée. Les préhistoriens disent qu'elle existe. Alors, certains disent même qu'ils l'ont trouvée, mais bon, on ment beaucoup quand même dans ce genre de choses. Et donc j'imagine que mes héros qui sont archéologues, hein, ils sont des thrillers, mais les héros ne sont pas policiers, ils sont archéologues. Il y a toujours une enquête historique dans tous mes thrillers, parce que d'abord je ne suis pas flic et je suis historien des religions, donc c'est plus facile pour moi de travailler cette matière. Et donc j'ai imaginé une expédition montée par... Il y a donc mes deux héros, Thierry qui existe vraiment, qui est un vrai préhistorien et qui m'a raconté... C'est lui qui m'a raconté les passages sous l'eau, parce que moi je ne vais pas dans ce genre de choses. Ça, je ne suis pas assez à l'aise là-dedans. Et puis un quatrième personnage qui va arriver quelque chose, c'est que ces quatre personnages découvrent en fait la dernière grotte ornée, celle qui a été ornée juste on va dire avant la fin de la civilisation et qui est un peu la pierre de Rosette, celle qui va donner les clés de la civilisation préhistorique. Et ça nous permet de faire le lien entre les deux parties de l'ouvrage, la partie qui se passe en 2002, de nos jours, et la partie qui se passe effectivement à la préhistoire.
Voilà, donc nos deux personnages sont contemporains. Mais il s'intéresse à la nuit des temps, comme dit l'expression dans l'extrait lu. Et du coup, ils sont tout de suite dans une enquête pour essayer de comprendre ce qu'ils ont découvert, d'interpréter, d'émettre des hypothèses, de chercher des confirmations, quelquefois jusqu'en Suède, aux États-Unis. Enfin, Marjolaine, elle fait...
Elle est très cosmopolite, elle bouge beaucoup.
Voilà, elle bouge beaucoup pour aller chercher d'autres...
Voilà, le Pierre, son compagnon, ils se mettent en couple dans le premier ouvrage, mais... Vous pouvez lire le troisième sans avoir lu le premier, ça c'est pas, c'est fait pour. Hein.
Voilà. Mais
voilà,
Marjolaine,
elle est très, c'est une fille qui est très, voilà, elle est très citadine justement. Elle a vécu à l'étranger. Pierre, lui, il est un peu périgourdin, il me ressemble un peu, il est un peu rusto, un peu ours. Il aime pas trop quand il y a beaucoup de monde. Enfin, voilà, il aime bien ses forêts. C'est là, ils sont très différents. Ça permet de faire des dialogues un peu, et puis des situations un peu punchy, je dirais, dans le roman. Et effectivement, ils vont essayer d'abord de comprendre ce qu'ils ont trouvé. qu'est-ce que c'est autour de cette grotte. Et puis, il va y avoir quand même, on est quand même dans un thriller, c'est-à-dire qu'il va se passer des choses graves. Le quatrième personnage, qui s'appelle Jacques, qui est dans l'expédition, va être assassiné à Bordeaux, justement, parce qu'une grande partie de la plupart de l'action se passe à Bordeaux, et va être assassiné à Bordeaux. Voilà. Donc là, assassiné en plus par une arme préhistorique, ce qui va beaucoup étonner la police de Bordeaux, et donc qui va beaucoup s'appuyer sur mes deux archéologues pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, en définitive. Qu'est-ce que c'est ce meurtre? Qu'est-ce qui est arrivé? Voilà,
donc il y a déjà deux fils narratifs, et il y en a un troisième, finalement, c'est une enquête dans Bordeaux, et dans le Bordeaux maçonnique, plutôt.
Tout à fait.
Et alors, à un troisième niveau, on est dans une enquête, là aussi, l'enquête policière, l'enquête préhistorienne, et puis l'enquête maçonnique.
Voilà, parce que je suis franc-maçon, là, je suis à la Grande Loge de France depuis très très longtemps, depuis une bonne trentaine d'années, et donc je me sers un petit peu comme fait Jacques Ravenne dans ses romans, je me sers de la maçonnerie pour faire des enquêtes à l'intérieur de la maçonnerie, mais pour interpréter tout le côté légendaire, mythologique qu'on rencontre dans les différents ouvrages que je fais. Et donc là, j'ai imaginé que celui qui est assassiné, étant franc-maçon lui aussi, a laissé des indices dans Bordeaux, dans des places particulières, dans des monuments particuliers à Bordeaux. Et donc, effectivement, il y a tout un déroulé, toute une recherche que ses amis vont faire pour savoir qui l'a assassiné. Donc, il y a toute une enquête, effectivement. Allez, on se promène beaucoup dans Bordeaux. On visite quand même pas mal. C'est un peu un Da Vinci Code bordelais. On se promène vraiment d'un monument à un autre, de café ou de restaurant à des endroits plus sérieux, comme le Grand Théâtre ou les Quinconces. Voilà. On se promène, on a toute une promenade.
Et même la base
sous-marine. Même la base sous-marine de Bordeaux. Là, c'est vraiment. D'ailleurs, je me sers beaucoup de l'impression que j'ai eue, moi, à la base sous-marine pour la raconter, parce que j'ai toujours trouvé que c'était un endroit très particulier, quand même, la base sous-marine.
Tout à fait, c'est
une ambiance extrêmement glauque. Donc, j'ai trouvé que c'était extrêmement. Pour un thriller, c'était parfait.
Voilà, c'était là. Et donc, voilà. On ne va pas en dire trop.
On va pas tout raconter. C'est vrai que voilà. Il y a cette amorce, si vous voulez, de cette enquête qui va, cette enquête pour savoir, pour cette enquête que mènent les amis pour essayer de comprendre quelque chose à ce crime, hein, qui les amène dans le Bordeaux maçonnique, toute une remontée dans le Bordeaux maçonnique. Et si vous voulez, le lien se fait aussi avec la part, parce qu'il faut toujours lier les deux parties. Quand vous avez des thrillers, une partie ancienne, une partie moderne, c'est assez classique. Steve Berry fait comme ça. Enfin, il y a pas mal d'auteurs de thrillers qui font comme ça. Il faut bien sûr les lier, sinon ça n'a pas l'intérêt. Donc effectivement, j'ai imaginé qu'il se tient en même temps à Bordeaux un congrès international sur le réchauffement climatique, avec des manifestations d'écologistes, avec des voilà. Donc effectivement, on va lier nos deux histoires, le réchauffement climatique d'il y a 11 000 ans, et puis le réchauffement climatique d'aujourd'hui, avec ce que certains peuvent craindre, ou certains peuvent attendre, je dirais, de ce terrible avenir. Parce que s'il y avait la même montée des eaux qu'il y a 11 000 ans, Bordeaux serait sous l'eau. Largement. Ouais. Même très largement.
Ouais,
voilà. Donc, si vous voulez, je joue beaucoup avec ces deux situations, bien sûr, entre ce qui arrive réellement, concrètement, à la préhistoire, que j'imagine, enfin, qui est bien arrivé, de fait. Hein, moi, je le mets en situation, je le mets en scène, mais c'est bien ce qui est arrivé. Et après, ce qui pourrait arriver de nos jours.
Voilà, il y a un parallèle qui est quand même très suggestif, hein, qui fait réfléchir aussi au-delà du plaisir de lire une histoire palpitante. Il y a une réflexion sur ce parallèle entre le réchauffement climatique qui a fait disparaître les Cro-Magnons il y a 11 000 ans, et puis le réchauffement climatique qu'on est en train de subir, parce que là, il est avéré, il n'y a plus beaucoup de négationnistes climatiques. Hein. Pratiquement tout le monde constate
À part M. Trump, apparemment, qui n'a pas bien
oui,
compris.
Oui.
Il faut l'expliquer un jour.
Mais les effets ont déjà commencé à se faire sentir, notamment au pôle. Bon, aussi la pollution atmosphérique aussi montre une saturation de particules fines.
Voilà.
Ben voilà, il y a des indices. Du coup, on se met à réfléchir finalement à ce parallèle et vous l'avez orchestré avec beaucoup de maîtrise puisque tous les deux chapitres, eh bien, on passe de la préhistoire et donc les aventures de ces derniers Cro-Magnons. Qui sont obligés de changer complètement de mode de vie et trop vite. Donc, évidemment, on ne s'adapte pas quand le changement est trop rapide. C'est toute la problématique du dérèglement climatique. Et puis, le monde d'aujourd'hui, où on va avoir à trouver des réponses aussi.
Voilà. Puis j'ai essayé de poser aussi, moi je suis un fan de philo, et j'ai essayé, sans donner de réponse, parce que d'abord je ne l'ai pas, je n'ai pas cette prétention, mais c'est vrai qu'il y a un vrai problème qui est posé par l'écologie, c'est-à-dire que, et c'est pour ça que ça s'appelle vers la vengeance de Gaïa. J'ai pris le titre. Il y avait un livre très célèbre qui s'appelle La Revanche de Gaïa, de Lovelock, qui est un des premiers des partisans de la deep ecology. Donc j'ai parodié un peu son titre parce qu'effectivement il y a un vrai problème qui est extrêmement compliqué à aborder. C'est-à-dire que est-ce que le droit de la nature, qui est défendu par les écologistes et qui est nécessaire parce que si la nature disparaît, ben on disparaît avec, est compatible avec le droit de l'homme? Et ça, c'est un vaste sujet, c'est une vraie problématique. D'une certaine manière, si on fait passer le droit de la nature avant le droit de l'homme, bien, peut-être que s'il y a trop d'hommes, il faut en faire disparaître. Et ça va être la théorie. Dans ce roman, moi, je me sers toujours beaucoup du nazisme, je suis très spécialiste du sujet, et je montre que peu de gens savent aussi qu'il y a eu toute une théorie d'écologie nazie. Vous imaginez, bien sûr, les conclusions, c'est assez facile avec les nazis, mais effectivement, il y a toute une théorie d'écologie nazie qui va dans ce sens-là, de la régulation, de l'élimination du trop-plein humain, l'élimination des gens. Voilà. Donc il y a tout un raisonnement, effectivement, de la défense des animaux. Hitler, il y a tout un discours d'Hitler en 1933 qui dit que la souffrance animale est absolument inadmissible, que dans le Troisième Reich, il n'y aura plus de souffrance animale. On aurait aimé qu'il fasse pareil avec les humains, hein. Mais il y a tout un discours, toute une problématique écologique de cette époque-là. Et donc le problème est un vrai problème, parce qu'on est comment on résout ça? Jusqu'où peut-on aller pour contraindre l'homme pour qu'il ne détruise pas la nature? Mais en même temps, si on laisse l'homme détruire la nature, eh bien, il en détruira l'homme en même temps. Et là, c'est un vrai problème philosophique. Alors là, c'est un vrai devoir.
Oui, à partir du moment où on emploie le terme d'anthropocène, c'est-à-dire où on constate que l'homme change le climat, puisque c'est ça, donc on est entré dans l'ère de l'anthropocène, ça met en cause la responsabilité de l'homme. Et donc, il y a effectivement un courant qui s'appelle la deep ecology, qui va jusqu'à souhaiter l'élimination de l'homme pour que la nature retrouve son harmonie préalable.
Voilà. Et là, ça rejoint d'ailleurs l'idée maçonnique, parce que la franc-maçonnerie, qui est apparue au moment des Lumières, elle est co-créatrice des Lumières, hein, au XVIIIe siècle, début même XVIIe siècle. Elle fait partie de ces philosophies qui mettent bien sûr en avant l'anthropocentrisme. L'homme, ce n'est plus Dieu qui est au centre du monde, c'est l'homme. Le monde moderne s'est construit comme ça à partir du XVIIe, XVIIIe siècle. Et la franc-maçonnerie est en plein là-dedans. Et effectivement, mon héros discute un petit peu avec un leader écologiste suédois qu'on va rencontrer dans le roman, parce que lui, il est franc-maçon, il est très XVIIIe siècle, il est très partisan des Lumières. Et alors, lui, d'ailleurs, utilise le mot que beaucoup de gens utilisent, moi le premier. On parle de l'environnement. Et les partisans de la deep ecology sont toujours très en colère quand on dit le mot environnement, parce qu'ils disent non, on n'est pas dans un environnement, l'homme au centre, c'est l'environnement de la nature. On est dans la nature, il n'y a pas d'environnement, nous sommes dedans. Et là, là aussi, on revient sur ce même débat, où suis-je? C'est vrai que l'homme n'est pas sur un nuage au-dessus de la nature, c'est vrai, et en même temps, ce vaste sujet, je ne le résous pas dans le roman, je vais tout de suite, hein. C'est déposé, il y a toute une réflexion dessus, mais je ne vous apporterai pas la solution, parce que là, je ne l'ai pas.
Mais c'est intéressant justement de voir que le roman fait réfléchir à des questions qui restent ouvertes, hein, et qui sont particulièrement importantes pour l'avenir de l'humanité. Et donc, effectivement, le militant écologiste Lars
Eriksson, qui est un Suédois, voilà.
Qui lui aussi, d'ailleurs, est franc-maçon.
Voilà, oui, ça m'a arrangé pour les faire se rencontrer, je dirais, rue Ségalier, notamment, dans la célèbre, qui est une des plus vieux emplacements maçonniques de France, d'ailleurs, la rue Ségalier, à Bordeaux. Et donc, effectivement, il va faire toute une conférence sur le sujet de l'écologie profonde.
Il est là aussi pour la grande réunion sur le réchauffement climatique à Bordeaux. Et donc, il y a une discussion sans issue, bien entendu, entre Pierre, qui est humaniste et franc-maçon, et Lars, qui, lui, est militant assez extrémiste, et on le verra aussi.
Assez rude.
Au fil du roman, on le verra, ça se confirmera.
C'est un excellent marin, mais il est assez rude, quand même.
Voilà. Mais on n'en dira pas trop sur la suite. Et donc, bien, il se fâche presque, hein, sur cette question, puisque pour Lars, le droit de la nature doit s'imposer.
Doit s'imposer, voilà.
Doit s'imposer, fût-ce aux dépens de l'homme.
Voilà, il cite beaucoup. Je me suis appuyé sur des citations de Cousteau. Oui. Il y avait des déclarations. Quand on les relit aujourd'hui, c'est vrai que ça fait un peu dresser les cheveux sur la tête. Cousteau avait dit, c'était en 71. Non, 71.
Oui,
je
vous
crois.
Dites 91.
91 ou 91. Oui. Je ne me souviens plus. Peut-être 91
dans,
de oui, mémoire.
Dans le livre, c'est 91.
Ouais, 91. Là où il avait déclaré que les virus, lutter trop contre les virus, c'était pas forcément très bien parce qu'ils régulaient la population humaine. Voilà, ça c'est. Alors, biologiquement, c'est vrai. Biologiquement, c'est incontestable. Sauf que c'est très, très désagréable pour ceux qui en meurent. Et comme répond Pierre, qui est un humaniste, il me dit mais généralement, c'est en plus, ce sont généralement les populations pauvres qui meurent et les riches qui s'en sortent. C'est généralement comme ça que ça se passe. Donc, effectivement, ça dépend. Quand on est du côté des riches, c'est assez facile de le dire. Quand on est dans la population africaine, c'est un peu plus compliqué. Voilà. Donc, il y a tout ce. Voilà, je me sers de plusieurs exemples. Effectivement, il y a beaucoup de penseurs aujourd'hui qui réfléchissent sur ça, sur ce problème de l'écologie profonde. Et effectivement, ben, nous sommes confrontés à ça, je dirais, à des choix sur lesquels on va, je pense, louvoyer en bon navigateur. On va être obligé de louvoyer énormément pour arriver à avancer sans forcément faire trop de mal à l'humanité.
Oui, c'est ça. Et sans totalitarisme.
Exactement. Parce que la méthode chinoise, par exemple, pour réguler les populations, elle a marché, c'est incontestable, mais je ne sais pas si on a envie d'avoir le régime chinois en France. Enfin, je ne crois pas trop. Enfin, moi, pas toujours. Je dis, voilà, ça marche autrement. Le régime chinois, il a régulé, pas de problème.
En vrai, c'est intéressant ce dialogue parce que Lars, par exemple, il développe notamment l'argument de la démocratie, ce qui est un comble.
Mais, oui, bien sûr, mais c'est des arguments qui sont vraiment avancés, d'ailleurs, par les présidents de la Deep Ecology, qui effectivement disent, à une certaine époque, on trouvait normal qu'il y avait que les hommes qui décidaient, en plus, ils étaient blancs généralement, parce que, voilà, on considérait que les gens qui étaient noirs n'avaient pas de droit, que les femmes n'avaient pas de droit. Bon, aujourd'hui, on trouve parfaitement normal que les hommes, les femmes, quelle que soit la couleur de leur peau ou leur culture, aient les mêmes droits. Donc, les partisans de la Deep Ecology disent, mais les animaux finiront par avoir les mêmes droits, la nature finira pas avoir les mêmes droits. Ça, c'est une sorte de théorie qu'on trouve beaucoup aux États-Unis ou dans les pays nordiques qui sont très, très défenseurs de ce genre de théorie. Avec le risque que ça a, bien sûr, de dire, mais voilà, de réduire l'homme à la portion congrue, en définitive.
Oui, voilà, voire à la disparition nécessaire.
Voilà, c'est le vaste sujet.
Il y a un auteur français aussi qui a écrit « L'homme disparaîtra, bon débarras ».
Oui, mais le problème, c'est que c'est un homme qui le dit. C'est toujours ça, bien sûr. Oui.
Donc, il y a ce fil de narration et de réflexion qui court jusqu'à la fin, parce que le thriller, finalement, il est sur ce fil-là. Hein. On n'en dira pas plus, mais c'est
on ne raconte jamais la fin d'un thriller.
Non, surtout pas.
Sachez que si vous aimez Arcachon, il y a toute une partie. J'avais besoin de la mer, forcément, quand on traite ce sujet. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, où est-ce que je vais situer mon thriller? Au début, ma première idée, d'ailleurs, était de le faire plutôt sur la Méditerranée par rapport à la grotte Cosquer. Puis je me suis dit, mais je connais beaucoup Arcachon, je suis bonne partie du temps. Hein. Quand je suis pas à Sarlat, je suis à Arcachon, et puis j'adore Arcachon, donc je dirais je vais situer ça sur Arcachon et Bordeaux, ça ira très bien, ce sera plus facile pour moi, et puis je serai plus dans mon jus, je dirais, pour parler de villes que je connais, plutôt que de partir sur la Méditerranée que je connais moins bien.
Et alors 2002, on comprend mieux, au dernier chapitre, pourquoi 2002 et pas 2016 par exemple?
Oui, d'ailleurs ça je peux le dire, parce que tous mes thrillers se passent au début des années 2000, alors pour une raison très simple, c'est-à-dire que Jacques Ravenne, qui est un auteur de thriller très connu et qui fait vraiment d'auteur de best-seller, c'est lui qui m'a poussé à passer du roman historique au thriller. Il m'a dit tu touches plus de gens, c'est intéressant. Donc je me suis mis au thriller sous sa houlette et il m'a dit dans un thriller il faut des méchants bien méchants. En tant que spécialiste du nazisme, j'ai dit des méchants bien méchants, les nazis c'est parfait. On dirait qu'on les a inventés pour ça. Donc quelque part, j'ai besoin d'avoir des nazis. Mais il fallait quand même que des nazis qui soient encore en état physique, je dirais des gens qui ont vraiment connu le Troisième Reich, même si on peut jouer avec des néo-nazis, mais j'avais besoin d'avoir des vrais nazis pour montrer leur idéologie, comment ils sont passés, comment ils travaillent sur les autres religions, sur le christianisme, sur l'islam, sur l'écologie. J'aurais toujours, ce sera un peu un fil récurrent que vous aurez dans tous mes thrillers. Donc effectivement, c'est pour ça que je me situe au début des années 2000 pour avoir des nazis qu'on ne ramasse pas encore au Papy Buvard. Ils sont encore à peu près, ils sont des vieillards alertes. Voilà.
Oui, c'est vrai que si on fait référence à d'autres ouvrages, donc, voilà, avec les mêmes personnages, Marjolaine et Pierre, enfin, et aussi le père, c'est dans l'Échiquier du Temple ou dans le Testament Noir?
Dans le Testament Noir,
voilà. Le Testament Noir se passe le 10 septembre 2011. Enfin, il commence le 10 septembre 2011.
2001.
C'est
2001.
Pas par hasard.
2001.
Oui, 2001, pardon.
Oui, c'est une date...
La veille du 11 septembre.
Voilà, le 20 septembre, où un vieux monsieur est assassiné en Californie, et on apprendra, bien sûr, que c'est plus tard, que c'est le père de mon héros, le père de Pierre, et qui a abandonné sa famille, et Pierre va enquêter sur ce père qu'il a quasiment pas connu, et il va redécouvrir son rôle dans la guerre d'Algérie, puis il va remonter le temps jusqu'au moment où on va arriver pendant la guerre, justement. Voilà.
Et donc, dans l'échiquier du temple, là, c'est plus les chevaliers du temple, justement, puisque vous êtes bien placé en Périgord.
Oui.
Pour maîtriser le
Moyen-Âge, on est pas mal placé.
Voilà, le Moyen-Âge, l'époque cathare, les chevaliers, les templiers, les commanderies, enfin voilà. Et donc, c'est la substance, l'un des fils.
Là, je me suis servi d'un. C'est un site, je ne sais pas si vous connaissez à côté de Sarlat, qui s'appelle Comarque. C'est un truc qui existe. En ruine, c'est une espèce de castrum en ruine qui est dans la forêt, dans les marécages, qui est un endroit magnifique, assez peu connu. On peut le visiter, pas en ce moment parce que c'est vraiment trop humide. Et j'ai construit mon thriller à partir du cahier archéologique que m'a donné Hubert de Comarque, le propriétaire. Et donc c'est un gros truc comme ça. Et donc ce qui fait que je fais du faux avec du vrai, comme dans tous mes romans. Dans tous mes romans, je pars toujours de choses vraies, d'éléments vrais. Puis bien sûr, après, je fais du faux parce que c'est un roman. Donc c'est le principe même du roman. Mais j'ai toujours une base vraie. Et là, dans l'échiquier du temple, effectivement, vous pouvez visiter le château de Comarque. Vous verrez l'échiquier, il existe. Vous verrez pratiquement tout ce que je raconte, vous pouvez le voir. Parce qu'effectivement, j'ai construit... Et le roman se passe de nos jours, donc en 2000, à cet endroit-là, et au moment des Templiers, donc au Moyen-Âge, au même endroit, mais à l'époque Templier, bien sûr, les deux histoires, par définition, vont se croiser.
Voilà. Des choses croisées, comme dans chacun de vos thrillers. On vous surnomme le Dan Brown du Périgord, je crois que c'est bien mérité, parce que on va vraiment dans l'érudition et en même temps dans le suspense.
J'essaie de travailler toujours de cette manière-là. Parce que je fais des éditions, j'ai travaillé avec les éditions Lattès aussi pour les romans historiques. Et c'est avec mon éditeur, qui est le patron de chez Lattès, Laurent Lafont. Lui, il m'a dit, je vous mets dans la catégorie des Umberto Eco. Ça m'a fait vachement plaisir. Je vais pas dire que j'étais aussi bon que Umberto Eco, mais effectivement, je travaille toujours l'érudition, le côté romanesque et l'érudition. J'essaie quand même de nourrir mes lecteurs. Je dis, moi, j'ai envie que mes lecteurs, ils apprennent plein de trucs. Moi, ça me fait jubiler d'apprendre des choses parce que je les découvre. Pour la vengeance de Gaïa, je connaissais un peu la préhistoire, parce que tous les Périgourdins sont un peu préhistoriens, mais j'ai quand même travaillé cette époque-là. Elle est très peu travaillée, cette époque qu'on appelle l'Alrode, le réchauffement climatique qui dure 1000 ans à peu près. C'est très peu travaillé. J'ai dit, je vais me plonger là-dedans, je vais aller voir ce que... Voilà, et j'ai obtenu la préface. On a des spécialistes du chamanisme qui s'appelle Jean-Clotte, qui est un des spécialistes mondiaux de la préhistoire et qui est spécialiste du chamanisme, puisque moi, en tant qu'historien des religions, je mets toujours un côté spirituel ou religieux à l'intérieur de mes romans. C'est intéressant parce que ça fédère les humains. C'est là qu'on voit les ruptures aussi. Donc c'est toujours très intéressant de travailler la religion. Et là, dans celui-là, on travaille le chamanisme, qui est la religion originelle, la mère de toutes les religions, pratiquement, celle de toutes les religions sont sorties. Et donc, effectivement, je me suis beaucoup servi de ça. Et les travaux de Jean-Clotte, qui là-dessus est le spécialiste. Voilà, moi, je ne connaissais pas spécialement. Bah, j'ai appris. Voilà, avant d'écrire, j'apprends. Voilà, puis après, j'écris.
Beaucoup de choses et le plaisir que vous avez eu visiblement à l'écrire, le lecteur le partage à la lecture et il s'instruit tout en se posant des questions. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce n'est pas vrai? Qu'est-ce qui est imaginé? Qu'est-ce qui est érudit? Mais il y a un fond de documentation très solide, quoi. Et la préface de Jean-Clotte en témoigne. Alors, il a écrit en 96 avec l'Africain du Sud, David Lewis Williams, Les chamans de la préhistoire, un livre qui a donné lieu à beaucoup de polémiques parce que, évidemment, c'est une hypothèse, mais c'est une hypothèse quand même qui repose sur des recoupements, justement, des chassés croisés, là aussi temporels, parce que dans beaucoup de cultures africaines traditionnelles, il y a des trans, il y a des sorciers, il y a des visions, il y a aussi des totems animaliers, et tout ça finalement correspond assez bien à ce qu'on découvre en Périgord.
Tout à fait, on a l'impression que toutes les cultures du monde, puisque toutes les cultures, les hommes de partout, de tous les pays ont été chasseurs à une époque, avant l'agriculture, par définition, hein. Et même si nous sommes tous des Cro-Magnons, nous sommes tous des Africains, le Cro-Magnon vient d'Afrique, nous sommes tous Cro-Magnons, mélangés un petit peu avec Néandertal qui restait sur la partie européenne. Mais nous sommes tous des Cro-Magnons. Mais par contre, on a apparemment la même culture religieuse originelle. On retrouve effectivement des traces partout. On a beaucoup cherché la descendance de la religion préhistorique en Sibérie, puisqu'effectivement, on sait d'abord que les bêtes sont parties en Sibérie, donc une partie des hommes est partie en Sibérie. Et effectivement, il y a des points, ce qu'on a pu recueillir sur le chamanisme de Sibérie, il y a des images qu'on retrouve. On a presque les mêmes images peintes, quoi, avec les hommes, avec des andouillés de rennes sur la tête, vous avez des grottes, la grotte des Trois Frères dans les Pyrénées, vous avez les mêmes représentations. représentation que certaines photos qui ont été faites au 19e siècle ou certaines peintures qu'on a au 17e siècle. C'est intéressant et surprenant, quand même.
C'est surprenant, oui. Le dieu cornu qui découvre voilà. aussi à un moment dans cette fameuse grotte correspond bien à
On le trouve presque partout, dieu cornu. Il y en a en Amérique centrale, oui. Je crois que c'est sous les Sioux, là, chez les Hopis, on en trouve. Et c'est intéressant parce qu'il faut se souvenir qu'avant le réchauffement climatique, on allait à pied partout. Sauf l'Australie, qui a été découverte en bateau. Ils avaient déjà des bateaux il y a 80 000 ans. C'est important. Mais il y a 80 000 ans, il y avait 150 km de mer, mais ils sont quand même partis en bateau pour aller peupler l'Australie. Ils étaient quand même assez forts, ces Cro-Magnons. Mais c'est vrai qu'autrement, on allait à pied en Amérique, on allait à pied partout. Donc que les gens se promenaient, les mers étaient beaucoup plus petites, et une même population peuplait quasiment toutes les terres. C'est pour ça qu'on on est vraiment tous frères biologiquement, parce qu'on descend vraiment tous de la même racine. Hein, il n'y a pas de problème.
Voilà. Et pour rester en Dordogne, les coquillages, par exemple, ils remontaient
oui, ça, c'est
la
vrai.
Gironde et la Dordogne, et la Vézère, on en trouvait...
Voilà, c'est une société on les imagine parfois comme des gens errants, plus ou moins. En fait, ils avaient une société assez organisée. On ne sait pas comment, mais on sait qu'il y a des coquillages qui sont venus de la mer en Dordogne. On sait qu'il y a une qualité de silex qui est de la région de Bergerac, qui s'appelle Lanquet, c'est un petit village de Bergerac, qui a été exporté à plusieurs centaines de kilomètres. Donc il y avait un commerce, pas un commerce de troc certainement, mais il y avait un commerce. Et on voyait que ces gens avaient vraiment une civilisation organisée et structurée, tout en étant des gens qui avaient... C'est parce qu'ils suivaient comme un petit peu comme les Sioux qui suivent les bisons. Oui. Eux, ils suivaient les rennes. Donc c'était des nomades. Suivant les saisons, ils bougeaient. Et on sait, par contre, qu'ils avaient... Par exemple, ils avaient des calendriers. On a trouvé en Dordogne un relevé de calendrier, de relevé de lune, de calendrier qui date d'il y a 20 000 ans. Donc on voit que c'est des gens qui avaient une culture extrêmement élaborée. Hein. C'est pour ça que j'ai fait de mon héros préhistorique. Puis il y a le héros de nos jours et il y a deux personnages en couple qu'on va retrouver à la préhistoire, que j'appelle Noah. Je lui ai donné comme métier d'être un suiveur de lune, celui qui est chargé effectivement d'étudier la lune pour savoir quand les rennes vont revenir. Voilà, j'ai imaginé ce métier extrêmement intéressant d'ailleurs. J'ai essayé de voir comment pouvait fonctionner une société préhistorique à partir de ce que l'on sait. Parce que bien sûr, là, il n'y a aucun écrit. Hein, donc on est obligé d'inventer... d'inventer les structures. Mais Jean-Claude ne m'a pas démenti. J'ai bien dit que c'était vraisemblable. Voilà. Oui, j'en ai dans le vrai, on ne peut pas le dire, mais dans le vraisemblable. Voilà.
Voilà. Et dans cette fameuse grotte, donc, tout à fait géniale. Enfin, on rêve de trouver une grotte pareille, parce que c'est le testament des Cro-Magnons, finalement.
Exactement.
Et puis c'est un manuel de dessin aussi des Cro-Magnons. Donc si seulement on pouvait la trouver. Et vous y mettez une sorte de voûte céleste. Et oui. Du coup, la connaissance des astres est indiquée par cette figuration.
Tout à fait, oui. On sait qu'ils l'avaient, l'observation. Ils avaient cette connaissance céleste. Alors après, on ne sait pas exactement comment ils se la représentaient, mais vraisemblablement avec... on sait que les animaux qui étaient peints, par exemple, ne sont pas ce qu'ils chassaient, mais donc ce sont des animaux qui signifient quelque chose. Ils chassaient beaucoup plus surtout le renne et puis le petit gibier, parce que c'est plus facile à attraper. Et quelque part, quand ils peignaient des mammouths ou des chevaux ou des bisons, ça avait un sens particulier. On ne sait pas lequel. Là, on n'a pas la traduction. On n'a pas la pierre de Rosette, justement. Alors, j'ai essayé de faire comme si on l'avait, mais c'est dans le roman. Là, c'est... Non, non, non. Mais effectivement, on n'a pas cette pierre de Rosette. Mais on sait que c'est un art signifiant. Ça a un sens. Exactement comme nous, quand on va rentrer dans une église, vous pouvez lire une église ou une mosquée. Enfin, tous les monuments religieux se lisent, je dirais, parce que ce qu'on fait, ça a un sens. Ça a été fait pour une raison particulière, dans une histoire particulière. Eh bien, les grottes préhistoriques ont été faites exactement de la même manière, sauf que là, on n'a pas la clé. Pour les hiéroglyphes égyptiens, on les a eus. Au début, on pensait que c'était que des dessins. Et puis avec Champollion, on a vu que c'était une écriture. Et pour les grottes préhistoriques, c'est exactement la même chose. Mais on n'a pas la clé. Voilà. Alors, j'ai imaginé un peu la clé, mais dans la réalité, c'est du roman. Effectivement, là, on n'a pas la clé réellement. Il y a des hypothèses. Le roi Gouranc, un très grand préhistorien, a fait des hypothèses sur ce que pouvait représenter effectivement certains types d'animaux qui seraient pour lui le principe féminin, d'autres principes masculins. Voilà. Alors, je suis parti de cette idée. D'ailleurs,
dans la lionne et le cheval.
Voilà.
Oui.
J'ai imaginé que l'époque... Parce que cette époque préhistorique, elle est passionnante parce que on s'aperçoit que on n'a pas trouvé de fosse commune jusqu'à justement la déroge, jusqu'au changement climatique. Ce qui signifie qu'on n'a pas eu... On ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de meurtre, parce que les hommes sont ce qu'ils sont, mais on n'a pas eu d'élimination de population. Ça veut dire qu'il y avait probablement une vie relativement paisible entre les tribus et relativement harmonieuse. Donc j'imagine une harmonie, justement, entre un principe féminin qui était la terre, Gaïa, Gé, enfin le principe de la matrice souterraine, et le ciel qui serait le principe masculin. Et donc il y avait une harmonie entre hommes et femmes, et une harmonie entre tribus. Ça, c'est ce que j'ai imaginé. Parce que les premiers massacres, ça date du réchauffement climatique et après de l'agriculture. Parce qu'effectivement, il est probable que la raréfaction du gibier a fait qu'on s'est entretué pour avoir le gibier, et l'agriculture, on s'est approprié les terres, ce qu'on ne faisait pas avant. Et donc, à partir du moment où on s'approprie les terres, on s'entretue.
Oui, comme dit Rousseau, le premier qui dit ceci est à moi.
Exactement, mais c'est absolument vrai. Proudhon, quand il dit la propriété, c'est le vol. Apparemment, c'est un peu vrai. C'est-à-dire que quelque part, on a commencé à s'entretuer à partir de ce moment-là. Tant qu'il y avait peu d'hommes et beaucoup de gibier, ce qui était vraisemblablement le cas à l'époque de la civilisation des Cro-Magnons, eh bien, ça se passait plutôt bien. On trouvait quelques squelettes avec des lances qui ont été percées de lances, mais on n'a jamais trouvé de fosse commune avant cette époque-là. Donc apparemment, il n'y a pas eu de massacre apparemment à cette époque-là.
Oui, et justement, dans cette époque préhistorique d'harmonie, la raréfaction du gibier, enfin, vous avez aussi développé ce point dans un petit passage que je vais lire aussi. Ça, c'est au chapitre 15, donc on est à la préhistoire. Et donc, on lit ceci. « L'harmonie régnait parce que chacun respectait la nature de l'autre et la propriété n'existait pas. Les chasseurs devaient s'excuser pour les vies qu'ils prenaient et ne pas prélever plus que le nécessaire. » C'est encore le cas en Afrique.
Je me suis inspiré de la société africaine. On ne sait pas pour la préhistoire, mais j'ai dit que ça se fait en Afrique. Ça paraît logique, on va dire.
Oui, voilà. Les libations qu'on offre à la terre, c'est resté très longtemps, jusqu'à l'Antiquité grecque et romaine d'ailleurs. C'était l'ordre de Gé, la déesse mère. Le réchauffement du climat, la raréfaction du gibier avaient rendu les hommes agressifs, âpres, au gain et voraces. Et c'est là que Noah a une idée, c'est la domestication. Donc là, c'est un changement radical de civilisation.
Alors, il faut à un moment donné... C'est pareil, j'ai essayé de réfléchir un petit peu, je me suis dit... on connaît beaucoup de chasseurs, en Périgord, c'est bourré de chasseurs. Tous les chasseurs... Il y en a plein qui ont capturé des petits renards, des petits sangliers. Donc il est impensable qu'à l'époque des chasseurs, qui a duré 35 000 ans, ils n'aient pas apprivoisé qui n'est pas la même chose que l'élevage. Voilà. Ouais. Qu'ils aient apprivoisé les animaux, c'est après certain, parce que c'est impensable qu'ils ne l'aient pas fait. Mais effectivement, l'élevage, c'est l'idée de les enfermer, de les garder, de faire une réserve alimentaire, on va dire, en quelque sorte. Et ça, effectivement, c'est apparu certainement parce que le gibier s'est raréfié. S'ils ne le faisaient pas avant, c'est pas parce qu'ils ne savaient pas le faire, parce que c'est pas compliqué de faire un enclos et de mettre des bêtes dedans, mais s'ils ne le faisaient pas parce qu'il y avait assez de gibier, c'est probablement pour nourrir tout le monde. Et quand le gibier est devenu plus rare, effectivement, ils vont inventer l'élevage. Donc, c'est après cette époque-là, au moment, il y a 11 000, 10 000 ans, à peu près, qu'on va basculer sur l'élevage, puis après sur l'agriculture, dans la partie méditerranéenne. Donc effectivement, j'ai imaginé que mon héros va peut-être penser pourquoi ne pourrait-on pas pratiquer l'élevage, en définitive.
Mais finalement, vous le présentez comme une espèce de violation de l'harmonie. Oui. Et du coup, il y a aussi un changement de religion qui intervient à ce moment-là et qui met en danger nos héros.
Oui, parce que j'ai imaginé, si vous voulez, il y a deux universaux qui sont terribles. Bon, le premier, c'est le mythe du déluge. Ça, on sait qu'il est partout. Et j'ai publié d'ailleurs des articles dans la revue de la Grande Loge de France sur le sacrifice humain. Toutes les cultures du monde entier ont pratiqué le sacrifice humain, ce qui n'est quand même pas la grande gloire de l'être humain, vous en conviendrez. Alors les Gaulois, les Malins, ça s'est fait en Afrique, en Amérique, partout ça s'est fait. Et je me suis dit, qu'est-ce qui est passé dans la tête de l'être humain pour avoir l'idée de sacrifier les enfants ou l'ennemi, ou les femmes, enfin, parce que généralement c'est toujours les plus faibles qui prennent, qu'est-ce qui s'est passé dans leur tête? Et j'ai imaginé, bien sûr c'est une pure hypothèse de ma part, j'ai imaginé que ce déluge, ce réchauffement climatique a été tellement violent qu'on est passé de l'idée d'une harmonie de la nature à l'idée d'apaiser les dieux. On le voit beaucoup dans l'Antiquité, même dans la Bible, hein, il faut toujours apaiser Dieu qui est toujours en colère. Donc j'ai dit, c'est peut-être venu de ça. Cette catastrophe écologique est la plus grande que la Terre ait connue et que les hommes ont connue. Et donc je me suis dit, ils vont peut-être partir de là, changer de religion et inventer une religion où, d'abord, certains se donneront le pouvoir, pouvoir particulier en tant que prêtre, et où ils vont, en même temps, commencer effectivement à sacrifier des humains pour apaiser les dieux. Et là, je suis parti aussi, j'ai mélangé deux mythes qui sont probablement les mêmes à l'origine, qui est le mythe du déluge, on le connaît dans la Bible, hein, on l'a tous lu, et le mythe de l'Atlantide, que nous raconte Platon, qui on voit partout, et qui est probablement de même origine.
Et qui est daté.
Alors, ce qui est extrêmement surprenant, ça c'est un truc, je ne sais pas si vous avez l'explication, vous me la donnez, parce que bon, le déluge dans la Bible, il est daté selon les techniques de la Bible, donc à peu près, il est faux, parce que la Terre, bien sûr, est bien plus vieille que 5000 ans ou 7000 ans. Mais par contre, la datation que donne Platon de l'Atlantide est juste. Ça, c'est extraordinaire. Platon raconte, dans le Timée et dans le Critias, dans deux dialogues, il raconte que Solon, qui est connu, hein, c'est celui qui a inventé la démocratie en plus, donc c'est quelqu'un d'extrêmement important, au cours d'un voyage en Égypte, a rencontré un prêtre dans la ville de Saïs, qui lui a raconté l'histoire de l'Atlantide, et qui dit, donc ça se passait 9000 ans avant nous. Alors 9000 ans avant Platon, ça fait exactement 11 000, 11 500 ans hein, avant aujourd'hui, et c'est exactement la date du réchauffement climatique. Alors, ou c'est un vrai coup de peau, ça arrive, hein, ou alors il y a vraiment, on se dit comment est-ce que ces prêtres d'Égypte connaissaient la date de ce déluge en définitive qui a existé. Parce que là, ben, j'ai bien vérifié, j'ai fait plusieurs traductions, je me dis peut-être qu'il y a des erreurs, j'ai quand même bien regardé, c'est bien la bonne date. Il y a dans les deux bouquins, il le donne dans le Timée, qui commence comme ça, puis après il passe à autre chose, il dit je l'ai rencontré plus tard, et dans le Critias, qui est inachevé, où il raconte le début de l'Atlantide, et puis le dialogue est inachevé. Voilà.
Donc, vous ouvrez comme ça beaucoup de pistes, parce que, par exemple, en essayant d'interpréter les peintures au lieu de les considérer comme de simples œuvres d'art, déjà, on lève un tabou. Jean-Claude a eu aussi affaire à beaucoup de polémiques contre cette hypothèse. Et aussi contre l'idée que les hommes de la préhistoire restaient très localisés, alors qu'on s'aperçoit au contraire qu'ils voyageaient énormément. Et évidemment, avec le danger du réchauffement climatique, ils ont entrepris de très très grands voyages. Jusqu'au mont Ararat et jusqu'à la Scandinavie. Donc c'est très étonnant de les suivre et au sud de l'Espagne, justement,
tout à fait, ils sont...
jusqu'au détroit de Gibraltar. Donc c'est aussi une ouverture pour l'esprit et un foisonnement de questions qui nous accompagne en même temps que le plaisir de lire cette histoire. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Monsieur Barbier, hein. Et bonne lecture à tous. Vous allez vous passionner pour tous ces thrillers.
Merci à vous.